quand on demande à des croyants quel est le premier livre de la Bible, le premier verset de la Bible, qu'est-ce que vous dites? Premier verset de la Bible. Au commencement, c'est quoi? Le verset. C'est quoi? Ah ben voilà, c'est pas au commencement. C'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et les réponses sont moins spontanées quand on demande quel est le dernier verset de la Bible. Dernier verset de la Bible. Vous avez des Bibles là, j'espère, parce qu'on va, on va se pencher dans la Bible aujourd'hui. Dernier verset de la Bible, Apocalypse 22, 21. Vous voyez qu'on est moins, sûr. Que la, amen. Avec la lecture, c'est bien. Okay. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Pourquoi la Bible se termine-t-elle par ce souhait? C'est en effet un souhait. Un souhait que l'apôtre Jean adresse aux croyants de son époque, mais à nous aussi aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Pourquoi? Eh bien, quand on a lu toute la Bible et qu'on arrive à la fin du dernier verset, la dernière parole qu'on entend, c'est surprenant, hein, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Quand on parle de la grâce, on pense à quoi? On pense à quoi pensez-vous quand on parle de la grâce? Hein? Au salut, un don immérité. Et oui, quand on parle de la grâce dans la Bible, on en pense surtout au salut qui nous est accordé par grâce. Et le texte qui nous vient d'emblée, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Si la grâce est synonyme de salut, le salut n'échappe pas aux croyants. Il y a un autre aspect de la grâce qui leur échappe bien souvent. Et c'est ce que cet aspect de la grâce que j'aimerais que nous voyons ensemble ce soir. Quand on lit les écrits des apôtres du Nouveau Testament, on se rend compte que bien souvent, les apôtres, et Paul, Pierre, Jacques, quand ils partaient, ils recommandaient les églises à la grâce de Dieu. Et de même, les églises recommandaient les apôtres à la grâce de Dieu. S'agissait-il du salut? Non, puisque les apôtres avaient l'assurance du salut. Alors, de quoi parlait-il quand il disait que la grâce de Dieu soit avec vous? On va prendre un exemple dans Actes 14, verset 26. Actes 14, verset 26, j'ai une Bible là. Le premier qui a trouvé peut lire Acte 14, 26. Tu as des Bibles? Ouais, ben c'est bien. Tu apportes, comme ça on aura. Plus il y en a, plus mieux c'est. Comme ça tout le monde l'aura sous les yeux. D'accord. Il s'agit ici de Paul et Barnabas qui quittent l'Italie, et pour se rendre à Antioche. Ils partent, ils sont comment? Recommandés à la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas du salut. Voici un autre exemple, dans Actes chapitre 15, versets 40 et 41. Actes 15, 40 et 41. Le premier qui a trouvé peut lire. Vous savez. Merci. Il s'agit de Paul et Silas qui vont partir pour la Syrie et la Cilicie. Le texte nous dit qu'ils partirent recommandés par les frères à la grâce du Seigneur. Et nous pouvons voir ainsi que les apôtres étaient régulièrement recommandés à la grâce de Dieu, mais que les apôtres aussi faisait de même quand il quittait une église. On voit ça dans l'épître aux Romains, notamment, Romains, chapitre 16, verset 24. Romains 16, 24. Il en fait de même aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 16, 23. 1 Corinthiens 16, 23. Tu veux lire, c'est pas grave. Et l'apôtre Jean fait la même chose dans Apocalypse, Apocalypse 1, verset 4. Frères, que parlent les apôtres, les uns pour les autres, c'est qu'ils en avaient besoin, de même que nous, croyants d'aujourd'hui, avons besoin de l'expression de la grâce dans nos vies. Alors, aujourd'hui, quand on parle de la grâce, on se réfère essentiellement au Nouveau Testament, et notamment aux épîtres de Paul. Mais c'est Jean, le premier qui en parle, le Nouveau Testament, Jean 1, 14, qui dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est donc dans cette parole qui a habité parmi les hommes, que se trouve la grâce. Elle en est pleine, c'est-à-dire qu'elle en a suffisamment pour chacun, pour tout le monde, en abondance, pour répondre aux besoins de grâce de chacun, à tout moment et en toutes circonstances. Alors, nous lisons d'ailleurs, toujours dans Jean chapitre 1, verset 16, il a dit que « Et nous avons reçu la plénitude et grâce pour grâce », c'est-à-dire, non seulement grâce pour grâce, c'est-à-dire une grâce après l'autre, autant de fois que nous avions besoin de la grâce. Et le texte dont... Quel est le texte dont pouvaient se référer les auditeurs de Jean quand ils parlaient de la grâce? Parce qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qu'ils entendaient? Qu'est-ce que les auditeurs de Jean ont bien pu comprendre ou entendre lorsque Jean leur parle de la grâce? Ils n'ont pas le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Il fallait qu'ils comprennent quand même. Alors, le premier texte dont il est question de la grâce et duquel pouvaient se référer les auditeurs de Jean se trouve dans le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 9, verset 8. Esdras, chapitre 9, verset 8. Dans ce texte, alors, il y a d'autres versions, c'est pas la version seconde, mais dans d'autres versions, il a dit que le Seigneur vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés. Ça, c'est le début. Et nous voyons donc ici l'aspect du salut, sauvé. Quelques-uns ont été sauvés. Et nous voyons un deuxième aspect de la grâce, puisqu'il dit en nous accordant un abri dans son saint lieu, c'est-à-dire une sorte de protection de la grâce. Et lorsque les apôtres partaient, quittaient les églises, les uns recommandés par les autres, eh bien, c'est de cette protection dont ils avaient besoin. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient recommandés, les uns et les autres, à la grâce de Dieu. Mais la finalité du texte, c'était afin d'éclaircir les yeux. Et ta version dit quoi déjà? En rendant la clarté à notre regard. Et il y a une autre version ici qui dit quoi? Esdras 9, 8. Éclaircir les yeux. Une autre version encore? Toi, ta version dit quoi? C'est pareil. Une autre version? OK. Dans l'original, il est question d'éclaircir les yeux. Ou donner de la clarté, ça revient donc au même. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, éclaircir les yeux? Éclaircir les yeux du peuple. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est lui donner une vision plus claire de la situation. C'est lui permettre de voir plus loin, de voir au-delà, de voir ce qu'il ne voit pas avec ses yeux normaux, avec ses yeux naturels. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que nous disons maintenant, mais je souhaite que nous comprenions bien que ce que c'est que éclaircir les yeux, parce que tous les croyants de toutes les époques ont eu besoin d'avoir les yeux éclaircis. Parce que c'est seulement lorsqu'on a les yeux éclaircis par Dieu qu'on peut voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Alors j'aimerais, pour nous permettre de bien comprendre ce que veut dire éclaircir les yeux, prendre deux exemples. Le premier est celui d'Agar. Vous connaissez l'histoire d'Agar. Agar, elle a eu un enfant pour qui ? Hein ? Pour Abraham. Elle lit la Bible, hein ? Elle lit la Bible. Oui. Pour Abraham. Et avec l'accord, d'ailleurs, de sa femme qui s'appelait ? Bien. Alors, petite revision, hein, parce que ce sont des gens que nous connaissons. Bien. Et il se trouve qu'à un moment donné, Sarah, plus tard, parce que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, mais plus tard, Sarah a eu un fils qui s'appelait ? Bien, très bien. On va le faire se taire, on va le poser la question à d'autres, mais OK. Donc, et lorsque l'enfant est né, il s'est créé une sorte de jalousie entre les deux femmes, entre Agar et Sarah. Elles ne s'entendaient plus. Le fils d'Agar narguait Sarah et Sarah ne pouvait plus supporter la présence de cet enfant et de sa maman dans le foyer. Et Sarah demande à son mari de renvoyer cette femme. Et Abraham hésite parce qu'elle lui a quand même donné un fils. Et puis, renvoyer Agar avec son fils, l'envoyer où ? Mais Dieu dit à Abraham, fais ce que ta femme t'a dit. Et le texte nous dit que Abraham, on va lire ça, c'est intéressant de voir comment le texte biblique nous dit les choses dans Genèse au chapitre 21, verset 14. On voit comment le départ d'Agar. Genèse 21, verset 14. Est-ce que quelqu'un sur ma gauche pourrait lire cela ? Ah, il y a toujours à gauche. Il lui donne l'enfant, et comme le voyage est long, il doit traverser donc, le désert, il lui donne de l'eau. Et le texte nous dit que Agar s'est égaré dans le désert de Beersheba. Au chapitre 21, toujours, cette fois au verset 15 et 16. Alors, à droite, toi, est épuisé, et l'enfant pleure, Agar pleure, et il n'y a aucune autre solution, la mort est certaine. Situation du monde actuel. Situation du croyant qui n'a plus d'eau. Eau, source de l'eau vive, Jésus. Mais je ne vais pas dans la dimension spirituelle. J'aimerais que nous comprenions éclaircir les yeux. Et Agar, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va poser l'enfant quelque part le plus à l'ombre possible et elle va s'éloigner pour ne pas voir son enfant mourir, dit le texte. Parce que la mort est certaine, il n'y a pas d'eau, on est dans le désert, égaré. Et à un moment donné, certainement, l'enfant pleurait, et Agar aussi pleurait. Parce que vous imaginez une maman qui va poser son enfant, qui sait que l'enfant va mourir et ne peut rien faire pour l'aider. L'angoisse. L'angoisse. Mais le texte nous dit, à un moment donné, et j'aime beaucoup ce texte, au verset 17 et 18, quelqu'un de derrière peut lire, ce serait bien. Genèse 21, 17 et 18. Quelle belle promesse dans une situation telle que celle dans laquelle se trouvait Agar. De dire à la maman, de se lever, de prendre son enfant et de lui promettre que cet enfant, que lui, Dieu, fera de cet enfant une grande nation. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce Dieu de la Bible. Parce que le texte nous dit que Dieu entendit la voix de qui ? De l'enfant, pas de la maman. La voix de l'enfant. Et je me dis que si dans une situation pareille, Dieu entend la voix d'un enfant qui pleure, il peut aussi entendre la mienne lorsque je suis en difficulté, lorsque j'ai des problèmes, lorsque je crie à lui, Dieu entend aussi ma voix. Il a certainement entendu la voix de la maman aussi. Mais j'aime la subtilité du texte qui nous dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Et lorsque Dieu intervient, c'est pour faire cette promesse, bien entendu, à Agar et à son fils. Mais lisons le verset 19. Le texte commence en disant quoi ? Verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux, et le mot ouvert, ouvrir, le verbe qui est employé ici, est le même mot qu'éclaircir. Mais vous savez qu'en français, quand on dit éclaircir les yeux, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouvrir les yeux, ça parle plus en français. Ou alors, donner de l'éclat aux yeux. Dieu éclaircit les yeux d'Agar. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vit un puits. Le puits avait-il toujours été là ? Vous voyez, est-ce que le puits avait toujours été là ? Alors, s'il avait toujours été là, comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas vu ? Mais ça nous arrive. Ça nous arrive. Il est probable que le puits soit là, mais que sous le poids du chagrin, sous le poids de la tristesse, sous le poids du fardeau, sous le poids des problèmes, dans les problèmes dans lesquels nous nous débattons, il nous arrive de ne pas voir le puits. Et c'est la raison pour laquelle le texte commence en disant que Dieu lui éclaircit les yeux et qu'à ce moment, elle vit le puits. C'est-à-dire que si Dieu ne lui avait pas éclairci les yeux, elle n'aurait pas vu le puits et elle et son enfant seraient morts dans le désert. Alors, vous voyez, comme je disais, que éclaircir les yeux, c'est permettre de voir ce qu'on ne voit pas avec les yeux normaux. C'est nous permettre de voir au-delà. C'est nous permettre de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, dans les difficultés, dans les problèmes. Mais quand on n'a pas les yeux éclaircis, eh bien, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez et on se débat et on se démêle. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre encore ce que éclaircit les yeux, je vais prendre un autre exemple. La Syrie vient faire la guerre à Israël. Ça aussi, vous connaissez, c'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6. Le roi de Syrie fait des plans avec son armée, ses généraux, pour tendre une embuscade à Israël. Mais il se trouve que chaque fois que le roi de Syrie met en place une embuscade, il se trouve que l'armée d'Israël est informée et déjoue le plan. Le roi de Syrie, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait appeler ses généraux. Il dit, mais il y a un traître parmi nous. Et on comprend cela. Il y a un traître parmi nous parce que chaque fois que nous mettons en place un plan pour tendre l'embuscade, Israël est informé et déjoue le plan, ne tombe jamais dans l'embuscade. Et un des généraux dit au roi de Syrie, non, non, mon seigneur, il n'y a pas de traître parmi nous. Ça, vous lisez ça dans du roi chapitre 6, hein, pour ceux qui n'ont pas le texte, qui ne connaissent pas. Non, non, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais il y a en Israël un prophète qui dit au roi d'Israël tout ce que lui, le roi de Syrie, dit même dans sa chambre à coucher. Et le roi de Syrie dit à ses généraux, allez voir où il se trouve et je le ferai prendre. on parle des Syriens, l'équipe part, et revient et dit au roi de Syrie, ça y est, on sait où il est à Dothan. Le roi de Syrie prend son armée et entoure toute la ville de Dothan. Le matin, Élisée et son serviteur sont dans une maison, tous les deux. Le matin, le serviteur d'Élisée ouvre les portes et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit toute l'armée de Syrie qui entoure la ville. Il rentre, il referme la porte, va vers son maître, Élisée, et lui dit, « Ah, cette fois, c'est fini. Nous n'avons aucune chance d'échapper. Toute l'armée de Syrie est là. » Et vous savez ce qu'Élisée lui dit ? « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Le serviteur d'Élisée a dû dire, mon maître a un problème là. L'information que je viens de lui donner a dû lui taper sur le cerveau parce que nous sommes deux, lui et moi, ici, et il me dit que nous sommes plus nombreux qu'eux. Ah oui, cette information l'a rendu fou tout de suite. Et j'aime le texte. Dans 2 Rois 6, verset 17, qu'est-ce qu'il dit ? 2 Rois 6, 17. Comment se fait-il qu'Élisée puisse dire à son serviteur que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et que le serviteur ne le voit pas. Parce que le serviteur, parce que Élisée avait lui les yeux éclaircis, et lorsque il dit à son serviteur qu'ils sont plus nombreux que l'armée de Syrie, il se rend compte certainement de la surprise, de l'étonnement de son serviteur qui dit, mais mon maître a un problème là. Et qu'est-ce qu'il va faire, Élisée ? Il va simplement prier. Et sa prière, c'est quoi ? Seigneur, éclaircis-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Donne-lui des yeux éclaircis pour qu'il voie. Et lorsque le serviteur a enfin les yeux éclaircis, qu'est-ce qu'il voit ? Toute l'armée de l'Éternel qui a autorisé. Vous voyez que quand Dieu éclaircit les yeux de quelqu'un, celui-ci ou celle-ci voit Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et vous comprenez pourquoi le croyant a besoin de la grâce, de l'expression de la grâce de Dieu. Je parle le croyant de celui qui est sauvé. Pas pour être sauvé, parce qu'il l'est. Mais pour qu'il puisse voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et c'est bien souvent parce que nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre de notre vie lorsque nous sommes dans des difficultés, dans des épreuves. Qu'il nous arrive de décider, de prendre des initiatives, de faire. Nous avons des capacités, mais nous faisons souvent sans Dieu. Et parfois, nous nous débattons et parfois, nous nous trouvons la tête sous l'eau parce que nous n'avons pas eu les yeux éclaircis pour voir Dieu à l'œuvre de notre vie. Ce que Dieu fait est différent pour les uns et les autres. Puisqu'il s'agit, parce que Dieu agit en fonction des besoins de chacun de nous. Si je prends les deux récits que je viens de citer, Agar n'avait pas besoin d'une armée pour la défendre, elle avait besoin d'eau. Donc Dieu lui a donné de l'eau. Par contre, Élisée et son serviteur n'avaient pas besoin d'eau, mais ils avaient besoin d'une armée pour les défendre. Eh bien, Dieu leur a donné une armée. Dieu répond à chacun en fonction de ses besoins. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu agit toujours en faveur de ceux qui se confient en lui. Et si bien souvent nous paniquons ou nous sombrons, c'est parce que nous regardons avec nos yeux à nous et ne voyons pas ce que Dieu fait pour nous. Je n'ai pas le temps de le démontrer ce soir. Mais il nous faut savoir que, quel que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, quelle que soit la situation, il y a une promesse de Dieu pour moi dans la Bible. Vous savez ça ? Vous savez ça ? Vous savez ça ? Oui ? Ah. Parce que vous savez ça aussi ? Oui ? Sûr? Quand vous êtes fatigué, qu'est-ce qu'il vous dit? Hein? Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. Oui, oui. Quand nous avons peur, quand nous paniquons, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point, car je suis avec toi. Ne te détourne, ne te promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je vise à ton secours. Je fortifie ma gloire triomphante. Quand nous sommes malades, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, hein? Ah ben oui, mais parce qu'on n'a pas François les yeux éclaircis. Mais la promesse est quoi? Elle est là aussi, parce que nous ne nous réclamons pas justement de la promesse. Quand nous sommes malades, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Ah, non, mais pas ça. Maladie. Et ça peut dire ça aussi. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et vous avez un magnifique psaume. Le psaume 103. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Qui parle. Et bien souvent, nous n'arrivons pas à référer à ces promesses qui sont là pour nous. Et parfois, nous ne les connaissons pas. Parfois, nous les oublions. Et lorsque nous ne les connaissons pas, nous oublions, nous ne pouvons pas nous dire, Seigneur, accomplis ta promesse envers moi. Accomplis ta promesse. Pardon? Tes ailes en délivrent toujours. Très bien. Eh bien, c'est intéressant de savoir que, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, il y a une promesse de Dieu pour moi. Il y a une réponse que Dieu a déjà prévue pour moi. Mais que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Parce que tout simplement, nous n'avons pas demandé au Seigneur de nous éclaircir les yeux. Et peut-être que notre prière pourrait être ce soir, Seigneur, éclaircis-nous les yeux. Parce que nous avons tous des moments difficiles de la vie. Nous avons tous des problèmes. Tous. Qui n'a pas de problème ici? Ne rencontre jamais de problème? Vous n'avez jamais de problème? Hein, non? Ça va? Pas jamais de problème? Ah, vous ne pouvez pas répondre. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais justement, alors, voilà. Nous pourrions peut-être nous arrêter un moment et prier chacun pour lui-même. Pour demander au Seigneur de, en fonction des problèmes que nous avons et que nous connaissons, demander au Seigneur de nous éclaircir les yeux pour que nous puissions le voir à l'œuvre de notre vie. Voir la réponse qu'il a déjà prévue dans la situation que nous connaissons et qui nous pose des problèmes. Que nous voyons la réponse, la solution qu'il a déjà prévue. Voulez-vous que nous prions en ce sens? Nous prions chacun pour lui-même, silencieusement.